Selon les données de l'Association québécoise de prévention du suicide, au Québec seulement, on compte 3 suicides par jour. Toujours selon la QPS, on estime qu'un suicide plonge dans le deuil une vingtaine de personnes. L'association nous rappelle qu'il s'agit d'un important problème de santé publique. Il est donc nécessaire d'intensifier les efforts de prévention. Dans cet épisode, nous aborderons la prévention du suicide avec
Nancy Gédéon, agente de planification, programmation et de recherche, répondante régionale en santé mentale et en prévention du suicide à la Direction de santé publique.
Donc, la thématique de la semaine de prévention suicide, c'est parler sauve des vies, c'est bien ça?
Oui, exactement, parler sauve des vies.
Mais c'est un sujet qu'on n'est pas tous à l'aise d'aborder et on se demande comment on peut bien en parler de façon sécuritaire. Donc, j'aimerais ça parler de ça avec toi un peu, explorer un peu comment on en parle.
Bien, je suis contente parce que, tu sais, c'est tout à fait normal, justement, de se poser des questions et d'avoir des inquiétudes, à savoir, tu sais, je peux-tu dire ça, je peux pas dire ça, j'ai entendu dire que j'avais pas, c'est mieux de pas parler comme ça. Fait que ça va nous donner une occasion, justement, aujourd'hui avec toi, de pouvoir en parler, justement.
Oui, puis se donner des petits trucs un peu pour explorer comment on peut aborder ces sujets-là. Donc, premièrement, comment on devrait en parler au niveau plus entre nous, avec nos proches, notre famille?
Bien, c'est sûr que si on est comme inquiet pour quelqu'un, c'est différent que de parler en général de la prévention du suicide. Mais si on est, exemple, dans quelqu'un de notre entourage, puis qu'on est inquiet pour cette personne-là, c'est sûr que moi, j'encourage fortement d'en parler. Puis tu sais, on a chacun nos personnalités, chacun nos façons de faire. Tu sais, quand on a parlé de la semaine de prévention du suicide, on a dit d'oser poser la question « Penses-tu au suicide? » Mais tu sais, il y a des gens qui trouvent ça peut-être trop direct. Mais moi, je dis aux gens, allez-y avec un peu votre façon d'être, dans le sens où ce qu'on pourrait dire, ben écoute, tu sais, il y a telle affaire, ça m'inquiète, ça m'amène à te demander est-ce que ça t'arrive de penser au suicide ou, exemple, tu sais, il y a plusieurs personnes qui vivent des situations comme la tienne, puis des fois, ils pensent au suicide. Est-ce que toi, tu y penses? Tu sais, il y a plusieurs façons de poser la question. C'est juste de trouver notre façon à nous avec laquelle on se sent à l'aise.
Puis de se rappeler qu'il n'y a pas de danger à poser cette question-là à quelqu'un comme ça.
Non, effectivement, tu sais, dans le fond, il y a la croyance populaire que de parler de suicide ou de poser la question, ça va donner l'idée à quelqu'un. Mais c'est faux de croire ça parce que la personne qui a des pensées suicidaires ou qui pense au suicide, de se faire poser cette question-là ou de voir que quelqu'un dans son entourage qui a détecté qu'il est en détresse, ben de s'ouvrir, ça va être comme un soulagement de pouvoir dire « Ah, ben tu sais, cette personne-là a vu que j'étais pas bien, fait que je vais pouvoir y en parler, ça va soulager un peu cette personne-là qui est en détresse ou qui pense au suicide, il va sentir une ouverture chez la personne de l'entourage, puis de ne pas se sentir jugé.
Oui. T'sais. C'est ça, c'est pas de questionner quelqu'un qui va être dangereux, entre guillemets. La nuance est à faire plutôt au niveau de comment on va parler du suicide, par exemple, d'un artiste dans les médias ou comment on aborde le sujet en groupe.
Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a certains mots qu'on essaie d'éviter. Puis effectivement, c'est plate à dire, mais des fois, les médias, c'est comme une sensation, c'est quelque chose de sensationnel. Oui. Puis de le présenter comme ça, c'est un peu ça le danger, tu sais. Ou d'utiliser comme le mot suicide avec comme une solution, alors qu'on sait très bien que le suicide, c'est pas une solution, c'est l'absence de solution.
C'est ça, de dire, par exemple, il a trouvé la paix. On a déjà entendu des choses comme ça, de référer à quelque chose comme si c'était un soulagement, alors que c'est l'absence de possibilité d'une impasse, une détresse terrible.
C'est ça, c'est une détresse importante. La personne, c'est comme si elle est tellement remplie d'émotions négatives, de problèmes, de difficultés. Elle pense qu'elle vaut plus rien. L'entourage, tu sais, les gens... Les préjugés de la société aussi, des fois, les gens parlent de lâcheté, de dépressif, de problèmes, des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que tout ça, là, autour d'une personne qui est en détresse, la personne qui entend ces préjugés-là véhiculés, il finit aussi par les croire. Fait que c'est vraiment important là, de faire très attention de la façon qu'on en parle. Mm-hmm. Mais puis quand on demande à quelqu'un s'il pense au suicide, si on y revient un petit peu, c'est sûr que si on lui dit « Oh mon Dieu, j'espère que tu ne penses pas au suicide », c'est sûr que la personne va peut-être être moins enclin à s'ouvrir. Mais si on est vraiment préoccupé puis qu'on démontre vraiment « Écoute, tu m'inquiètes, je vois tout ça, puis ça me fait penser, mon Dieu, est-ce que tu penses au suicide? » Fait que tu sais, il faut vraiment faire attention à la façon qu'on en parle, mais je pense que si on le fait en toute honnêteté, en toute préoccupation pour la personne
Exactement,
qui est avec nous,
oui.
Je pense que ça devient plus facilitant, puis ça devient aussi une démonstration d'ouverture envers l'autre.
C'est ça, je pense que la nuance est justement dans l'inquiétude pour l'autre, d'en parler comme une préoccupation pour quelqu'un qu'on aime au jeu, de ce qu'on ressent puis ce qu'on voit. Je pense qu'il faut se rassurer sur la possibilité de l'aborder en famille avec nos proches aussitôt qu'on a une inquiétude.
Exactement. Puis aussi, de ne pas penser que, exemple, la personne qui ça ferait plusieurs fois qu'elle parle de suicide ou qu'elle a des idées suicidaires, elle en parle tout le temps, puis elle ne le fera pas.
Elle a besoin d'attention.
Ou penser qu'elle manipule.
Ouais.
Non, tu sais, une personne qui a des idées suicidaires, c'est une personne qui est en souffrance. Puis si elle en parle, c'est parce qu'elle a besoin que quelqu'un autour d'elle puisse s'ouvrir là-dessus, puis de poser la question. Ça va lui permettre peut-être de s'accrocher à une personne qui va pouvoir, dans le fond, l'aider ou l'amener ou la diriger vers les ressources qui vont pouvoir la supporter puis l'aider.
Puis, tu disais quelque chose tantôt, tu as parlé comme de la négative, le réflexe qu'on a à parler de ça à la négative parce qu'on a peur de ce sujet-là. Puis, tu l'as dit en disant « Ah, tu penses pas à ça puis tout », mais on le fait pour vrai sans s'en rendre compte, je pense, au quotidien. Je sais pas ce que tu en penses. Quand quelqu'un nous parle, par exemple, d'un état dépressif ou qui fait référence au fait qu'il va vraiment pas bien, ou on a tendance à couper la plainte puis à dire « ben non, ça va passer » ou
« Oui, ou ressaisis-toi » ou « Oui,
ben, oui, c'est
effectivement,
ça. »
C'est dans la nature humaine, on veut pas que les gens de nos entourages ils souffrent, on veut pas qu'il y ait de la peine, fait que on veut tout de suite comme effacer ça ou trouver une solution ou moi j'ai une petite recette du bonheur ici là, essaye ça puis c'est sûr que tu vas beaucoup aller mieux. Mais il faut être plus vigilant par rapport à ça puis faire attention, prendre conscience de ça. Mais c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Des fois on s'énerve puis on s'affole puis quand nos émotions prennent le dessus, ben on essaie de dire quelque chose d'intelligent le plus rapidement possible, mais c'est de prendre le temps. Puis des fois la personne en détresse, elle a pas besoin qu'on y réponde tout de suite, elle a juste besoin qu'on l'écoute. Puis tu sais aussi de dire à la personne, écoute, ça me fait chaud au cœur que tu me fasses confiance puis que tu me parles de ça. Des fois c'est juste ça que ça prend. Juste une écoute, puis dire, écoute, je suis disponible pour toi si tu as besoin de m'en parler. T'sais, veux-tu qu'on essaie de trouver quelqu'un qui peut t'aider? T'sais, c'est juste d'avoir une ouverture, puis pas de donner des solutions, parce que je sais qu'on veut sauver les gens, puis qu'on veut les aider, puis qu'on veut leur donner des solutions, puis que nous, on a peut-être trouvé une solution qui nous a aidé nous, puis on pense que ça va aider tout le monde, mais c'est pas tout à fait le cas. Chaque personne est unique, puis chaque personne a à trouver ses propres solutions.
C'est très intéressant ce que tu apportes en disant ça. Donc, on peut dire d'écouter, laisser de la place à l'autre, le valider un peu dans le fait qu'il s'ouvre, qu'il en parle pour briser l'isolement que la personne vit. Sinon, dans les autres trucs pour faciliter la conversation?
Ben, tu sais, trouver un bon moment. C'est sûr que si la personne est à l'épicerie, c'est peut-être pas le bon moment pour dire « Hey, comment tu vas? » voilà. Trouver ce moment-là précieux. Puis, tu sais, comme trouver notre façon à nous de le dire. Comme je t'ai dit tantôt, moi, je suis plus du type direct. J'aurais eu plus tendance à demander à quelqu'un « Ben, est-ce que tu penses au suicide? » Mais il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça, qui trouvent ça trop... ça vient trop les chercher. Ben, c'est de trouver, écoute, avec tout ce que tu me dis, ça m'inquiète. Est-ce que ça t'arrive de penser au suicide? Mm-hmm. Puis à ce moment-là, de pouvoir dire, ben écoute, on va trouver ensemble une personne qui peut t'aider là-dedans.
Oui. Et il y a beaucoup de ressources et on va revenir là-dessus ensemble pour voir un peu où est-ce qu'on peut référer, à quoi on peut se référer, nous aussi. Et il y a même des formations, tu me disais,
qui
sont offertes.
Oui, exactement.
Comment on nomme ça, des idéations suicidaires? On parle souvent d'idées noires. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire?
Bien, dans le fond, j'utilise pas idées noires parce que c'est pas assez précis qu'est-ce que ça veut dire. Même, on demande pas aux gens non plus, quand on parle de prévention du suicide, est-ce que tu veux mourir? Parce que souvent, les gens qui pensent au suicide veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir.
Oui.
Ça, c'est important aussi, tu sais, quand on parlait de comment on pose la question.
Oui.
Éviter de demander aux gens s'ils veulent mourir, parce qu'ils veulent pas mourir, ils veulent arrêter de souffrir. Fait que c'est pour ça quand on recommande aux gens de dire, est-ce que vous pensez au suicide? Est-ce que ça fait tellement mal que tu penses au suicide? Exactement.
D'être vraiment clair.
Oui, exactement. Utiliser les bons mots, c'est ça qui est important. Fait que si on demande à quelqu'un s'il y a des idées noires, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? On ne sait pas.
On n'a pas la vraie réponse.
Non,
à ce moment-là.
Puis peut-être que ça veut dire quelque chose de différent pour moi,
oui,
que pour
ça.
Toi.
L'interprétation est trop libre.
Est trop libre, exactement.
Intéressant. Mais on peut dire que c'est symptomatique de quelque chose qu'on vit. Se rappeler en fait que une dépression, par exemple, ça se guérit. Donc... Mais,
oui, effectivement. Puis tu sais, je veux dire qu'une personne qui en arrive à avoir des idées suicidaires, généralement, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est une accumulation de difficultés, de problèmes, qu'on va pas bien. Puis c'est pas toutes les gens qui font une dépression qui ont des idées suicidaires.
Non, c'est vrai.
OK? Fait que, puis c'est pas
Il y a des préjugés là-dessus aussi.
Oui, exactement. Fait que c'est pas toutes les gens qui ont des idées suicidaires qui sont dépressifs. Et c'est pas toutes les gens qui sont dépressifs qui ont des idées suicidaires.
Ouais.
Mais... quand on est rendu à avoir des idées suicidaires, c'est parce qu'on a une accumulation de plusieurs situations, puis c'est différent pour chacun. On a un poids sur nos épaules, on a des pensées qui nous font plus voir, dans le fond, la présent de façon réaliste.
C'est
on
ça.
A tendance à... Tu sais, des fois, je dis pour décrire ça, c'est que c'est comme si on a le journal, là, ou la première page, là, qui est toujours sensationnelle, mais que c'est comme si c'est juste ça qu'on voit.
Ouais.
On oublie qu'à l'intérieur du journal, il y a eu des bons moments. On oublie qu'il y a eu des moments où ça allait mieux. Il y a eu des bons moments avec des amis. Mais c'est comme si on oubliait ça.
Il y a des filtres, hein, puis on voit plus de possibilités. On a l'impression qu'il n'y a plus de solution.
Bien, on manque d'issue. C'est comme si on manquait d'issue. Fait que ce qu'on voit, c'est les difficultés, les problèmes, la première page. Puis on reste comme juste sur cette première page-là.
Puis on voit pas que ce sont des pensées qui vont s'arrêter ou qui... Comment dire? Que c'est notre cerveau qui nous joue des tours aussi.
Ben, c'est parce que, tu sais, dans le fond, il faut qu'on en arrive... la personne qui a des idées suicidaires, il faut qu'on arrive à prendre un temps d'arrêt, réaliser que... Pour l'instant, ça va pas, j'ai des problèmes, puis je dois les régler. Mais il faut que je prenne ce temps d'arrêt-là, puis que j'aille chercher l'aide que j'ai besoin pour régler les problèmes.
Mm-hmm.
Dans le fond, c'est ça l'objectif d'informer puis de sensibiliser la population pour en arriver à ce qu'on puisse offrir ce temps d'arrêt-là à la personne qui...
C'est ça, puis réaliser, je serai pas toujours comme ça.
Non, exactement. Ça sera pas toujours comme ça, mais quand t'es là-dedans...
Tu le vois pas.
T'sais.
C'est ça.
C'est pour ça que c'est important que l'entourage puisse... Oh my God, t'sais, il a pas l'air de bien aller.
Ouais.
Je pense que je vais aller voir comment il va, je vais lui poser des questions, je vais l'écouter, puis je vais peut-être y recommander l'aide qu'il peut recevoir, etc.
Est-ce qu'il y a des signes ou des symptômes qui sont associés au suicide?
Oui, on peut, il y en a quand même quelques-uns. Il y a des messages, c'est sûr que les plus connus, c'est les messages plus directs, tu sais, que je veux me suicider, je veux me tuer, j'ai plus le goût de vivre, la vie n'en vaut pas la peine, je m'en sortirai jamais, vous serez mieux sans moi. Bientôt, vous allez avoir la paix, je vais débarrasser le plancher. C'est ça, c'est ce qu'on parle de messages verbaux qui sont directs ou des fois un peu indirects. Il y a tout aussi les côtés, les indices plus émotionnels. On avait parlé des symptômes de dépression, même si ce n'est pas nécessairement rattaché ou relié directement. Ça peut être des signes de détresse, des symptômes d'anxiété, si on peut voir ça. Au niveau des comportements, ce qu'on peut voir, c'est des changements dans les comportements, vraiment des changements, des dons d'objets. Hein, ça peut être des rédactions d'une lettre d'intention. C'est quand même plus évident. Un intérêt soudain pour la mort, le suicide. Ça aussi, ça peut être un des indices ou de moyens de se suicider. Une rémission spontanée. Ça, je trouve que c'est vraiment important qu'on prenne peut-être une petite minute pour en parler. C'est que, exemple, si une personne, elle n'allait pas bien ou est en détresse, puis qu'on voit qu'elle va vraiment pas bien, mais que soudainement... sans nécessairement qu'il n'y ait rien qui a changé dans sa situation, elle va beaucoup mieux.
Mm-hmm.
Là, je pense, un des signes de détresse au niveau du suicide.
Il y a peut-être un plan derrière ça.
Ben, ça veut dire, c'est que dans le fond, quand on parle de rémission spontanée, c'est que ça veut dire que la personne, elle a comme pris sa décision, puis elle s'en sent soulagée que les gens autour d'elle vont être soulagés.
Ouais.
Vu que... vu qu'elle a pris sa décision.
Donc, être alerte s'il y a un changement...
S'il y a un changement soudain, qui est soulagé, qui est soudainement heureuse, mais qu'il n'y a rien qui a changé, tu sais, qu'elle n'est pas allée chercher de l'aide, qu'il n'y a rien qui a changé dans sa situation, qu'elle n'a pas repris avec sa blonde ou avec son chum, ou, tu sais, dans ce sens-là, s'il n'y a rien qui a changé puis que là, soudainement, va mieux, ça, c'est un des signes. La négligence du corps, si on s'occupe plus de soi, etc. Quand on parle un peu d'indices aussi cognitifs, ça peut être des difficultés de concentration, de l'incohérence, de la confusion dans le langage, absence de motivation. Ça peut être aussi des signes de détresse importants.
Oui, de détresse psychologique.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait les difficultés de, là, je pose une question précise, là, mais justement de concentration, puis les confusions, les problèmes de langage qui peuvent être associés à la détresse?
Ben, tu sais, oublie pas, tu sais, on a parlé du bonhomme, il était bien rempli, c'est comme un nez, il n'y a plus de place, on voit plus clair.
Il y a trop dans la tête.
Il y en a trop d'anxiété, il y a trop de dépression, il y a trop de honte, de problèmes, comme un nez, se concentrer, ça devient trop, là, ça devient too much, ou même incohérence, c'est que on sait plus dans quelle direction qu'on veut aller, on jongle avec les idées suicidaires, fait que imagine-toi comment que on devient incohérent à ce moment-là là.
Donc une personne qui vit une détresse, est pas toujours juste amorphe, down comme on peut penser, elle peut être très agitée, j'imagine.
Effectivement, exactement, ça aussi ça peut être un des signes là, tu sais, de l'agitation, surtout quand on parle d'impulsivité aussi puis d'irritabilité, ça on va parler aussi de ça un peu plus chez les jeunes, tu sais. Il faut faire plus attention à ça.
Et une fois qu'on remarque des choses comme ça, et bien sûr, on brise la glace et on pose les bonnes questions.
Oui, et de là que parler sauve des vies.
On a nommé beaucoup de façons d'aborder le sujet, de briser la glace. Mais une fois que la glace est brisée, une fois que l'autre s'ouvre et effectivement, il y a des idéations suicidaires, et là, pouf, on ne sait plus quoi faire avec ça. On se demande... On se dit, ça y est, c'est bien, la porte est ouverte. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'urgence? Puis, je pense qu'il y a la peur de blesser l'autre en trahissant sa confiance. Parfois, il y a comme une bulle de secret qui s'installe.
Oui, puis souvent aussi, la personne qui va, exemple, dévoiler qu'elle a des idées suicidaires, on remarque qu'ils vont dire, ben tu sais, parle-en pas à personne, je veux pas que tu le dises à personne. Mm. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, on a l'impression de comme tu dis, de vouloir embarquer dans le secret. Mais ça, c'est très important. Tu sais, des personnes qui ont des idées suicidaires, c'est toujours à prendre au sérieux, premièrement. Puis deuxièmement, dans le fond, la ligne directe, c'est le 811 ou le 1866 appel. Tantôt, on va parler un peu plus des services, mais c'est très important de ne pas rester avec ce secret-là, d'en parler avec quelqu'un, d'aller chercher de l'aide. Même si la personne elle-même qui a des idées suicidaires ne veut pas de l'aide, c'est important que si vous avez ouvert cette question-là avec quelqu'un puis qui a des idées suicidaires, appelez la ligne 1866, appelle, ils vont vous dire dans le fond c'est quoi la suite. Ils vont au moins vous prendre le temps de vous écouter, voir comment vous allez, tu sais, parce que de rester avec ça, exemple qu'un ami ou un proche ou un parent a des idées suicidaires, c'est lourd aussi pour tout le monde là. Fait que prenez le temps de les appeler, même si l'autre personne vous a dit non, je veux rien savoir ou non, je veux pas avoir d'aide. Vous prenez le temps d'appeler le 1866, puis eux autres, ils vont être en mesure de vous guider, de vous aider. Puis même à la limite, s'ils évaluent qu'il y a une intervention qui serait importante à faire, ils vont eux-mêmes appeler votre ami ou votre parent ou vont eux-mêmes prendre contact avec cette personne-là.
Effectivement. D'ouvrir aux autres personnes de l'entourage aussi de la personne, ça doit être pertinent dans ces moments-là.
Oui, il faut faire attention. Par contre, tu sais, j'aurais plus tendance à demander à la personne, y a-t-il quelqu'un d'autre de ta famille qui sait que tu as des idées suicidaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un à ta famille que tu aurais le goût d'en parler? Je pourrais peut-être t'accompagner là-dedans.
Ah ouais, un accompagnement. Ouais.
Exactement. C'est mieux ça que de... c'est que d'y aller par catimini, surtout si c'est quelqu'un de l'entourage, puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui est formé en intervention de crise suicidaire.
OK, oui.
Tu vois la différence?
Oui.
Si vous voulez pas en parler à la famille ou si la personne ne veut pas en parler avec la famille, vous êtes mieux d'appeler la ligne 1866 ou de vérifier avec cette personne-là. Est-ce que tu aurais le goût qu'on en parle à quelqu'un de ta famille? Y a-t-il quelqu'un de ta famille à qui tu fais confiance que tu aurais le goût de partager ça? Ou y a-t-il quelqu'un qui sait dans ta famille que tu as des idées suicidaires?
Oui, effectivement. Puis comme ça, on a moins peur du sentiment de trahison là, qu'on peut avoir.
Exactement. Puis aussi, dans le fond, ce qui est important, c'est que même si la personne vous dit de garder le secret, moi, je pense qu'en toute honnêteté, puis pour être intègre avec vous-même, il serait préférable de dire, ben, tu sais, c'est sûr que je peux pas garder ça secret. Moi, je vais appeler le 1-866, ouais, au moins pour me valider dans ce que je pense, ou je vais un peu parler de ta situation. Ouais. C'est de pas garder ce secret-là avec la
puis
personne.
Puis j'imagine que même si la personne réagit mal sur le coup, ça vaut la peine de l'avoir fait. Puis j'imagine que on repense à ça avec une distance après, quand on est dégagé de ces symptômes-là, en fait, d'idéation suicidaire, on va voir que la personne l'a fait parce qu'elle nous aimait vraiment puis qu'elle tenait à nous.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des milieux ou des cultures qui sont plus dans le secret, mais ça, c'est ouais, tellement, en prévention du suicide, c'est tellement quelque chose qu'on essaye de défaire. Puis la personne a effectivement un peu été fâchée sur le coup, mais tu sais, on sera pas plus avancé si on a deux personnes qui sont anxieuses puis qui ouais, vont pas bien, parce que là, j'ai reçu une confidence, je sais plus quoi faire avec. Fait moi, même moi, je deviens anxieux, je pense toujours oui, à cette personne-là, je me demande si elle va passer à l'acte. Ouais. Là, on va se ramasser avec deux personnes qui sont pas bien, on sera pas plus avancé.
Non, c'est ça.
J'aime mieux que si vous avez décidé d'ouvrir puis que vous avez eu un bon contact avec la personne, ben soit de dire on a-tu quelqu'un à qui on va parler, on va-tu faire une référence, sinon ben écoute, moi je vais au moins appeler un 866, ouais, je vais me livrer un petit peu pour vider ce que je vis moi aussi.
Oui, là, c'est ça, ouais, c'est pour ça, dégager de nos épaules à nous aussi,
cette
c'est
responsabilité
important.
Là, exactement.
On n'est pas des sauveurs même si des fois on veut.
Oui, exactement.
Fort. Et là, on parlait justement de ce concept là de secret qui des fois s'installe. Pourquoi on a autant peur que ça sache? Pourquoi on a autant peur d'en parler? Est-ce que c'est pas relié au fait, à la façon dont on le traite en société?
C'est une question intéressante. Je ne sais pas si je peux répondre tout à fait à ça, mais effectivement, ça doit avoir un lien aussi avec les préjugés en général qu'on a sur le suicide, parce que ce que la société pense du suicide, ben on le porte tous. Mm-hmm. Tu sais, si je te fais l'image d'un bonhomme, là, tu sais, le bonhomme, ben, tous les préjugés en lien avec la société, il porte aussi. Fait qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a, tu sais, on en a parlé tantôt, il se sent démuni. Mm-hmm. Exemple, quand on parle des hommes, ils sentent aussi une responsabilité, tu sais, ils sont supposés d'être forts, les hommes, ils sont supposés de,
oui,
tu sais, ils ont comme.
Les stéréotypes de genre.
Exactement.
Pèsent
lourd. Oui, exactement. Fait qu'il y a tout ça aussi qui contribue à ce que, on en parle moins, ou on veut comme, c'est comme plus quelque chose de tabou. Mais tu sais,
ouais,
au fil du temps, il faut qu'on continue à briser ces tabous-là, comme on a dit, soit par en donnant de plus en plus de formations, oui, puis aussi en sensibilisant les gens par rapport à la prévention du suicide.
Oui, à en parler, puis à considérer notre santé mentale comme notre santé physique.
Exactement, ça c'est vraiment un point intéressant que tu apportes, parce qu'effectivement, on est plus facile pour nous d'aller consulter à l'urgence parce que on a un problème de santé physique, là. Je me suis fait mal à une jambe ou quelque chose comme ça. Mais si j'ai des problèmes de dépression, d'anxiété, de détresse, ça c'est pas une place, ouais, pour aller consulter, comme si la santé mentale était secondaire à la santé physique, mais au contraire, tu sais, tout est dans tout là.
Oui, tout est interrelié et tout le monde va connaître des hauts et des bas.
Ben oui, effectivement, t'as tout
de
à fait raison.
Là,
oui.
Sans banaliser, par contre, ce qu'on vit.
Non, effectivement, puis je veux dire, des fois, de se relier à, comme on a dit tantôt, à se relier à une peine ou à quelque chose qu'une personne vit, on peut se le rappeler nous-mêmes. Ah oui, moi, quand il est arrivé telle affaire, j'ai eu tellement de peine. C'est peut-être pas la même affaire, mais la peine, vivre de la peine, c'est la même peine, tu sais.
Oui,
c'est ça.
Puis c'est vrai, tu disais, quand on se parlait tout à l'heure, l'importance de se mettre à la place de l'autre en référence à ce qu'on a vécu des fois pour savoir comment parler.
Oui.
Avec celui qui nous inquiète.
Exactement. Ça, c'est des trucs qu'on se donne, tu sais.
Oui,
pour,
très intéressant.
Pour dire, OK, je relève mes manches, puis je suis inquiète pour telle personne, je vais aller y parler, tu sais.
Puis là, tu me parlais de formation, justement, où on peut avoir plein de trucs comme ça.
Oui, ben dans le fond, à la Direction de santé publique, on offre deux formations, mais une principale qui s'offre, dans le fond, dans la communauté, à monsieur et madame tout le monde, qui s'appelle « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide ». Ça peut se donner dans les milieux de travail, ça peut se donner dans la communauté, des organismes communautaires. Dans le fond, c'est une formation où on va parler un peu de nos valeurs, mais où on va parler aussi un peu de comment repérer des signes de détresse, c'est qui les personnes, mm-hmm, qui sont plus à risque. Y a-t-il des moments aussi critiques chez les gens, puis après ça, comment intervenir, comment poser la question.
Ouais.
Tu sais, on va regarder un peu ce qu'on a jasé, mais plus en détail, avec des exercices, puis des jeux de rôle, puis c'est une formation qui est offerte gratuitement.
Ah oui.
C'est une formation d'une durée de 7 heures. Dans le fond, les gens qui sont intéressés par cette formation-là, dans chacune des MRC ou dans les points de service des CLSC, il y a une personne qui donne la formation. Fait que dans le fond, de demander cette formation-là, puis on va organiser des groupes, puis on donne la formation, voilà.
Et sinon,
aussi simple que ça.
Pour toutes les références, les ressources.
Bien, pour toutes les ressources, on en a parlé tantôt, tu sais, le 1-866 appel ou 2-7-7-3-5-5-3. Ça, c'est la ligne de prévention du suicide. Dans le fond, ces personnes-là sont vraiment formées pour évaluer la gravité de la situation de la personne, pour supporter aussi les gens de l'entourage. Fait que si on avait dit, tu sais, si je me sens pris avec tout ça, je sais pas quoi faire, on peut appeler la ligne 1-866. Il y a la ligne aussi 811 Info Sociale, qui a aussi des intervenants qui répondent, qui peuvent intervenir en situation de crise sans problème. Dans les CLSC, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, des gens qui sont formés pour intervenir en situation de crise. Fait que sur les heures d'ouverture, on peut se présenter au CLSC. Toutes ces ressources sont disponibles pour les gens qui auraient des situations de détresse ou d'anxiété ou des idées suicidaires, voilà. En ce qui a trait à la formation Agir en sentinelle, je voulais te dire qu'en 2018, on avait formé 70 personnes aussi dans la communauté de la Gaspésie et des Îles. Puis en 2019, on a réussi à former presque 100 personnes. Fait que, nous, notre objectif, c'est vraiment de former le plus de monde possible dans la communauté pour qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise à intervenir. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va être à l'aise à 100% tout le temps, mais le plus qu'on va sensibiliser les gens, dans le fond, le plus que on va pouvoir mettre un filet de sécurité autour des personnes qui sont en détresse.
Oui, puis peut-être plus que ça va devenir une norme de parler de santé mentale.
Oui, c'est intéressant.
Oui, très intéressant. Merci beaucoup, Nancy.
Ça me fait plaisir.
On rappelle les ressources mentionnées lors de l'entretien. La ligne téléphonique 811 Info Sociale. La ligne téléphonique 1-866 Appel. La ressource en ligne commentparlerdusuicide.com. Et depuis l'enregistrement de cet entretien, un tout nouveau service numérique québécois en prévention du suicide est accessible au suicide.ca. Ce service bilingue est gratuit et vous permet de clavarder de façon confidentielle avec des intervenants. On vous informe également que des rencontres de suivi auprès de certains groupes ayant reçu la formation Agir en sentinelle sont en planification. N'hésitez pas à contacter le 6 si vous souhaitez bénéficier de ce type de rencontre de suivi.